À l'écoute de RFI, 18h en temps universel, 19h ici à Paris et à Bruxelles. Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une, renforcer la défense de l'Europe, soutenir l'Ukraine. Voilà les deux mots d'ordre du sommet exceptionnel qui est en cours encore ce soir à Bruxelles.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait le déplacement. Une réunion en urgence alors que Washington se désengage vis-à-vis de Kiev et plus largement de ses alliés européens.
Mais tout cela, ça soulève de nombreuses questions. Évidemment, nous les évoquerons avec le reporter de l'hebdomadaire Le Point qui se trouve actuellement en Ukraine. Ce sera juste après cette édition.
Dans ce contexte, Emmanuel Macron propose un parapluie nucléaire français pour l'Europe, une annonce qui fait réagir en Russie. Le porte-parole du Kremlin n'a pas mâché ses mots. Il compare même le président français à Adolf Hitler, vous l'entendrez. Aux États-Unis, nouveau rétropédalage de l'administration Trump. La Maison-Blanche suspend pour un mois une partie des taxes douanières censées entrer en vigueur contre le Mexique. Nous serons en direct avec notre journaliste à Washington, Guillaume Nedin, dans quelques instants. Ankara intransigeante face au PKK, les autorités turques demandent aux forces kurdes de déposer les armes immédiatement. Et puis, les banquises qui se réduisent, nouvelle conséquence du réchauffement de la planète.
Et pour débuter donc ce grand journal du soir, direction Bruxelles, où les dirigeants des 27 sont réunis donc pour un sommet exceptionnel.
Au menu, le renforcement de la défense européenne pour rendre l'Union plus autonome et le soutien ensuite à l'Ukraine. On retrouve tout de suite en direct du Conseil européen notre envoyé spécial Anastasia Becchio. Bonsoir Anastasia.
Bonsoir.
Cette réunion a lieu alors que l'administration américaine se désengage du continent. Elle a suspendu aussi cette semaine son aide militaire à l'Ukraine. Le sommet est donc dicté par l'urgence du moment.
Oui, et Volodymyr Zelensky, malmené par les Américains, a reçu ici un accueil chaleureux à l'opposé de celui que lui avait réservé Donald Trump dans le bureau ovale. En le recevant, Ursula von der Leyen a insisté sur la détermination des Européens à donner aux Ukrainiens les moyens de se protéger et d'œuvrer en faveur d'une paix juste et durable. Volodymyr Zelensky a lui remercié les Européens pour leur soutien.
Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls et ce ne sont pas seulement des mots, nous le ressentons. C'est très important que vous ayez envoyé un signal fort au peuple ukrainien. C'est bien que nous ne soyons pas seuls. Nous le ressentons et nous le savons. Merci.
Et la question de l'augmentation du soutien à l'Ukraine est à l'ordre du jour, Anastasia.
Oui, elle sera discutée au dîner. On n'attend pas d'annonce de montant supplémentaire, mais une réaffirmation de ce qui est déjà sur la table, à savoir 30 milliards d'euros pour l'année 2025. Deux pays sont opposés à la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, c'est la Slovaquie et la Hongrie. Il semble qu'un accord ait été trouvé avec la première sur la question du transit du gaz. En revanche, Viktor Orban menace toujours de bloquer les conclusions du sommet, en particulier la déclaration de soutien à l'Ukraine.
Le Premier ministre hongrois serait en revanche plus conciliant sur l'autre volet de ce sommet, le renforcement de la défense européenne.
Oui, il y a une volonté générale de renforcer les capacités de défense des États européens. Les 27 discutent en ce moment même du plan de 800 milliards d'euros de la Commission intitulé « Réarmer l'Europe ». Une nécessité pour Petteri Orpo, le Premier ministre de Finlande, pays qui, après des décennies de neutralité, a rejoint l'OTAN après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
D'ici 5 à 10 ans, l'Europe doit être plus forte et un puissant pilier européen de l'OTAN. Si nous réussissons, nous n'aurons plus à nous demander qui sera le prochain.
Et en plus des recherches de financement, les Européens ont commencé à faire le tour de leurs lacunes et lister les domaines clés dans lesquels il faudra investir en priorité, à savoir la défense antiaérienne, les drones, la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup Anastasia Becchio en direct de Bruxelles pour RFI.
Alors cette mobilisation des pays européens, évidemment, elle est observée de très près par la Russie où les critiques n'ont pas manqué après le discours hier soir du président français Emmanuel Macron.
Oui, le président français qui a dénoncé à la télévision l'agressivité de Moscou. Il a aussi annoncé son intention d'ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe grâce notamment à la dissuasion nucléaire française. Forcément, depuis ce jeudi matin, la réponse du pouvoir russe se fait entendre et elle est ferme, Anissa El-Jabri.
Le chef de la diplomatie russe nomme le chef de l'État français Monsieur Macron. Le porte-parole du Kremlin le cite comme Monsieur le président. Dans les deux cas en Russie, cela signe une forte mise à distance et cela implique une menace ou du mépris. Les paroles, elles, sont à l'avenant.
Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon ou Hitler, M. Macron n'agit pas très gracieusement.
Ça, c'est le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a répondu aussi à l'argument du chef de l'État français sur l'agressivité russe pour juger que c'est au contraire Paris qui menacerait Moscou.
Bien sûr que c'est une menace pour la Russie. Ils nous considèrent comme une menace parce qu'ils convoquent une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne. Il dit qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie. Alors, bien sûr que c'est une menace.
Quant au porte-parole du Kremlin, il rejette, lui, encore plus vigoureusement que d'habitude les propositions françaises de peser sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine.
Nous avons lu les propos du président français selon lesquels il entend déployer un contingent en Ukraine après le cessez-le-feu. La Russie peut-elle accepter cela? La réponse est absolument évidente.
Dimitri Peskov, qui ce matin encore avait des mots très aimables pour la diplomatie américaine et son chef Marco Rubio, qui a dit « considérer que le conflit en Ukraine était une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, nous sommes entièrement d'accord », a dit le porte-parole du Kremlin. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Les récentes prises de position d'Emmanuel Macron et puis de manière générale tout le contexte géopolitique pose une nouvelle question. Comment la France peut-elle financer l'aide à l'Ukraine? Une piste est sur la table. La saisie des avoirs russes gelés depuis 3 ans, une manne potentielle de 350 milliards d'euros. Mais la classe politique française est partagée, Charles Turien-Tomacin.
L'idée divise mais prend chaque jour de l'ampleur. Si le gouvernement de François Bayrou est opposé à l'idée d'utiliser les avoirs russes, les députés du socle commun, eux, sont pour. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République.
Ce ne sont pas aux Français de payer, ce ne sont pas aux Ukrainiens de payer, ce ne sont pas aux Européens de payer. La charge de cette guerre doit être portée uniquement par l'agresseur qui est Vladimir Poutine et donc au travers des avoirs russes.
Le PS et Europe Écologie Les Verts y sont également favorables. Léa Balage-El-Mariki, députée ELV, propose d'ailleurs une résolution en ce sens.
Non seulement j'y suis favorable, mais j'ai aussi proposé à l'ensemble des députés de porter une proposition de résolution pour demander au gouvernement d'être aussi allant sur cette question. C'est une question de justice sociale.
Seul à soutenir le gouvernement, ses adversaires les plus déterminés, LFI et le RN, pour Gaëtan Dussausset, député Rassemblement National, c'est contraire au droit international.
Ça pourrait créer un précédent qui pourrait poser ensuite énormément de problèmes et dans la quête de futurs investisseurs étrangers et aussi dans les prochains conflits militaires si malheureusement il y en a d'autres qui arrivent à l'avenir.
Exactement la même crainte qu'exprime le gouvernement Bayrou. Les positions devraient se clarifier encore le 12 mars, date de la discussion à l'Assemblée d'une proposition de résolution du groupe Liotte demandant la saisie par l'UE des avoirs russes.
Charlotte Urien-Tomaka à l'Assemblée nationale française pour RFI. En France toujours, la justice condamne l'influenceur algérien Doualemn à 5 mois de prison avec sursis pour une vidéo diffusée sur TikTok où il appelait à donner, je cite, une sévère correction à un opposant au régime algérien, une affaire qui avait provoqué un regain des tensions entre Paris et Alger cet hiver.
RFI, 13h08 à Washington. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir avec Diane Berger. Diane, Donald Trump suspend à nouveau l'application d'une grande partie de ses droits de douane pour le Mexique.
Ils n'entreront en vigueur que dans 1 mois. Le président des États-Unis l'a annoncé tout à l'heure sur le réseau social Truth. Un nouveau recul dans sa guerre commerciale contre son voisin mexicain. On retrouve tout de suite notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume, c'est le dernier épisode en date donc d'un feuilleton qui crée une forte incertitude.
Oui, Donald Trump annonce qu'il a pris cette décision après une très bonne discussion avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Rien de ce qui tombe sous le coup de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada négocié et signé par lui lors de son premier mandat ne sera finalement surtaxé pour ce qui concerne le Mexique. Donald Trump explique qu'il a pris cette décision en raison du bon travail avec la présidente mexicaine sur la question des drogues et notamment du fentanyl et sur le dossier migratoire. Il dit aussi qu'il le fait par respect pour Claudia Sheinbaum qui salue, elle, des progrès. Rien encore en revanche sur les droits de douane sur les produits en provenance du Canada. Ce matin, dans un entretien télévisé, le secrétaire au commerce Howard Lutnick expliquait, après un premier recul sur l'automobile hier, que ces droits de douane seraient certainement levés provisoirement pour les deux pays. Mais la relation avec le Premier ministre du Canada n'est pas aussi bonne qu'avec la présidente mexicaine, manifestement. Donald Trump appelle publiquement Justin Trudeau gouverneur et non Premier ministre et il le soupçonne publiquement d'utiliser ce dossier pour se maintenir au pouvoir. C'est faux, puisque Justin Trudeau n'est pas candidat à sa succession qui se décide ce week-end. En attendant, les marchés financiers semblent ne pas apprécier ce va-et-vient. Wall Street est dans le rouge au moment où on parle.
Merci beaucoup Guillaume Nodin. Et puis la guerre commerciale continue également avec la Chine. Les autorités de Pékin promettent qu'elles vont se battre jusqu'au bout contre les nouvelles mesures tarifaires mises en place par Washington.
Cette injonction à présent, le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, doit déposer les armes immédiatement et sans condition.
C'est ce qu'a exigé ce jeudi le ministère turc de la Défense, une semaine après l'appel du fondateur et chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, qui proposait la dissolution du mouvement. La réponse turque concerne aussi bien les combattants kurdes repliés dans le nord de l'Irak que ceux du nord-est de la Syrie. Pour en parler, on retrouve en direct d'Ankara Anand Lower. Anne, avec cette déclaration, la Turquie signale à la fois son impatience et son intransigeance à l'égard du processus de paix en cours.
Oui, cette déclaration du ministère de la Défense n'est pas une réponse à l'appel d'Abdullah Öcalan qui satisfait en fait toutes les attentes des autorités turques. C'est une réaction au message du PKK suite à l'appel de son fondateur. Le groupe armé avait annoncé un cessez-le-feu, mais tout en se disant d'accord avec le contenu de l'appel, il a réclamé qu'Abdullah Öcalan dirige lui-même le Congrès censé acter son désarmement et sa dissolution. Alors Ankara accuse le PKK, je cite, de tenter de créer la confusion en soulevant des questions telles qu'un cessez-le-feu qui ne sont pas incluses dans l'appel d'Abdullah Öcalan et rejette toute prolongation du processus en cours. Contrairement aux efforts de paix précédents qui avaient échoué après 2 ans de cessez-le-feu entre 2013 et 2015, les autorités turques cette fois veulent aller vite. Le PKK et tous les groupes qui lui sont affiliés doivent se dissoudre immédiatement et sans condition, insiste le ministère de la Défense. Une allusion notamment aux forces kurdes de Syrie, les YPG, qui assurent n'être pas concernés par l'appel d'Abdullah Öcalan. La Turquie martèle le contraire. La presse pro-gouvernementale ici assure que des plans sont prêts pour une opération d'ampleur militaire avec l'armée syrienne en cas de refus des forces kurdes de Syrie de désarmer.
Merci beaucoup, Anand Lower à Ankara pour RFI.
Les affrontements continuent dans la région de Latakié en Syrie.
16 membres des forces de sécurité ont été tués par des partisans de Bachar al-Assad dans cette région côtière, fief des soutiens de l'ancien président renversé le 8 décembre dernier. Mais les habitants du secteur dénoncent aussi les violences qu'ils subissent. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 civils sont morts cette semaine et des chefs religieux alaouites appellent à des manifestations pacifiques pour protester.
L'actualité environnementale à présent est encore un mauvais signal pour le climat. Le début de l'année 2025 a été anormalement chaud.
Oui, pas de record, mais on n'est pas loin. Le mois de février a été le 3e plus chaud jamais enregistré sur la planète. Et puis le dérèglement climatique accélère aussi la fonte des glaces du côté des pôles. C'est officiel selon les calculs du programme européen Copernicus. Il n'y a jamais eu aussi peu de banquises, Pauline Glaise.
Le mois de février est traditionnellement une période de moindre étendue de la banquise, pôle nord et pôle sud confondus, mais cette année elle est particulièrement réduite. D'un côté, l'Arctique n'a jamais été aussi peu recouvert de glace pour un mois de février, 8% en dessous de la moyenne. De notre côté, la banquise antarctique, sans battre des records, voit sa surface réduite de plus de 25% par rapport à sa moyenne saisonnière. Pourtant, El Niño, au pouvoir réchauffant sur la planète, a été remplacé par son contraire, la Niña. Mais ces phénomènes naturels ne sont pas décisifs, explique Jean-Baptiste Salé, océanographe au CNRS.
Il y a des effets sur les couvertures de banquise, mais qui sont assez indirects. Ce qui est en jeu, c'est vraiment le changement climatique tendanciel d'origine humaine.
Ces pertes de banquises ne sont pas sans conséquences.
La banquise est une surface blanche qui reflète les rayons du soleil en dehors de la planète. Quand il y a moins de banquise, en fait, il y a moins cet effet miroir de la banquise et donc on a plus de chaleur qui reste sur la planète. Il y a le changement du régime de la banquise, donc moins de formation ou plus de fonte qui va changer les caractéristiques de l'eau de mer. et donc il va avoir des effets sur la circulation océanique et aussi sur les habitats des écosystèmes.
Cela a aussi un impact sur certaines populations qui vivent dans la région arctique.
Pauline Glaise du service environnement de RFI. Et puis c'est réussi pour Ariane 6. La fusée a décollé il y a 1h30 depuis la base de Kourou en Guyane française et le satellite militaire qu'elle transportait a été placé en orbite. Une petite victoire pour le premier vol commercial d'Ariane Space. Son départ avait dû être annulé lundi à la dernière minute en raison d'un dysfonctionnement d'une vanne. La mission est aussi hautement symbolique car les Européens veulent se relancer dans le domaine du spatial. Il est maintenant 18h15 en temps universel.
Romain Ouzoui. Merci Diane Barger pour ce grand journal du soir. Coup d'œil au programme des prochaines minutes. C'était le grand titre hein, de votre édition, le sommet européen consacré à l'Ukraine. Les questions soulevées sont nombreuses. Évidemment, l'une des principales, comment continuer à aider l'Ukraine sans les États-Unis. Nous rejoindrons sur ce point-là le reporter de l'hebdomadaire Le Point qui se trouve actuellement en Ukraine. Et puis nous irons dans le sud du Japon, à Okinawa, distant de quelques centaines de kilomètres de Taïwan, et où les manœuvres militaires de Pékin qui se déroulent actuellement en mer de Chine orientale sont observées avec grande inquiétude. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Avec Sofiane Amazian. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le foot évidemment, c'est une semaine de Coupe d'Europe. Il y a eu la Ligue des Champions ces deux derniers jours. À partir de ce soir, c'est la Ligue Europa, la C3 et l'Olympique Lyonnais qui se déplacent en Roumanie pour y affronter Bucarest.
Ouais, et le tout, Romain, dans un contexte très particulier, car depuis hier soir, l'entraîneur des Gones, Paolo Fonseca, a appris la durée de sa sanction à la suite d'un tête-à-tête en championnat avec l'arbitre. 9 mois de suspension jusqu'au 30 novembre prochain et interdiction d'entrer dans les vestiaires jusqu'au 15 septembre. L'OL, qui lutte pour les places européennes en championnat et qui rêve d'un beau parcours en Coupe d'Europe. Première étape, ce 8e de finale aller en Roumanie qui se joue en ce moment même. Et Lyon qui vient d'ouvrir le score d'ailleurs. 30e minute de jeu sur la pelouse de Bucarest grâce au défenseur argentin Taliafico. Le reste des 8e de finale aller se joue plus tard dans la soirée. Parmi les affiches, Ajax Amsterdam, Eintracht Francfort et AS Rome, Atlético Bilbao. Une équipe romaine en plein renouveau depuis que Claudio Ranieri l'a prise en main en novembre dernier. Il reste ainsi sur 6 victoires en 7 matchs. Le technicien italien qui a notamment relancé son meneur de jeu argentin, Paolo Dybala, particulièrement décisif ces dernières semaines, en encourageant tout simplement sa créativité, Claudio Ranieri.
Ce que je lui dis toujours, c'est qu'il doit s'amuser. Tous les autres doivent courir, lutter et accomplir leurs tâches, mais lui, il doit être concentré sur certains aspects défensifs et ensuite s'amuser. Les champions comme lui ne doivent pas être limités. Je pense qu'ils doivent être soutenus, ils doivent entrer dans le jeu et recevoir beaucoup de ballons, car ce sont des joueurs qui ont une vision magnifique et qui trouvent des espaces que les autres ne voient pas. Donc, ce que je lui répète, c'est de s'amuser.
Écoutons en voix de Roma, Athletic Bilbao, 20h, temps universel.
Alors, vous avez évoqué la suspension particulièrement lourde qui a été infligée à l'encontre de Paolo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique de Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, ça a fait réagir ce jeudi.
Et parmi les premiers à prendre la parole sur le sujet, Will Steele, l'entraîneur du RC Lens, le technicien belge qui, lui, a déjà récolté plusieurs cartons jaunes et un carton rouge pour s'être emporté après des décisions arbitrales. Eh bien, il prend acte de cette décision lourde infligée à son homologue portugais, mais ne veut pas discuter la décision de la Ligue de football professionnel.
C'est un événement qui marque le football français. C'est quelque chose d'assez inédit. Mais après, je vais être honnête, j'ai eu assez de problèmes avec l'arbitrage et assez de cartons moi-même que pour exprimer quoi que ce soit. Il y a des gens compétents qui ont pris des décisions et c'est pas à moi de commenter quoi que ce soit. On connaît les difficultés qu'il y a avec l'arbitrage français pour l'instant et je le dis, les personnes bien placées font le travail qu'il faut pour que ça se résoudre.
Et Paolo Fonseca qui, on vient de l'apprendre Romain, pourra exercer ses fonctions en Ligue Europa. La Fédération Française de Football ne réclamera pas pour l'instant de sanctions à la FIFA.
Également en football, alors ça c'est un nom, la sélection brésilienne qui va pouvoir compter sur le retour de Neymar pour le rassemblement du mois de mars.
Oui, Neymar qui retrouvera la sélection du Brésil en mars après quasiment un an et demi d'absence pour blessure en vue des matchs de qualification au Mondial 2026. Ce sera contre la Colombie et l'Argentine. La dernière convocation de Neymar sous le maillot aux 5 étoiles remonte au 17 octobre 2023 lors d'une défaite 2-0 en Uruguay. Il s'était alors effondré sur le terrain, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Et on termine avec du tennis. Hein. C'est la suite du premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells aux États-Unis et bientôt l'entrée en lice du français Gaël Monfils.
Le 42e mondial affronte dans quelques heures l'allemand Jan Lennard Struff, 46e. Et en cas de succès, le joueur de 38 ans retrouvera le local Sébastien Korda, tête de série numéro 24 du tournoi. Assure également le premier match du fantasque australien Nick Kyrgios, finaliste à Wimbledon en 2022. Et depuis redescendu à la 470e place mondiale car malmené par les pépins physiques, Kyrgios affrontera un qualifié, le néerlandais 22 ans de Schlup.
Et s'il s'en sort, je crois qu'il peut rencontrer Novak Djokovic.
Oh, c'est pour un remake de la finale à Wimbledon.
Bravo, tout est dit. Sofia Damasian, merci beaucoup. C'était Jean Aldesport sur RFI. 19h, bientôt 20 minutes ici à Paris. L'Europe tente donc de s'organiser après le désengagement des États-Unis. Évidemment, il y a la question de la sécurité du vieux continent désormais à assurer seul, mais il y a aussi dans le même temps l'Ukraine qu'il faut continuer à aider sans les États-Unis, d'où la tenue ce jeudi d'un sommet européen entièrement consacré à l'Ukraine à Bruxelles. Bonsoir Boris Mabillard.
Bonsoir Romain.
Journaliste à l'hebdomadaire Le Point, vous êtes actuellement en mission en Ukraine, précisément où vous vous trouvez à Kramatorsk. Et cette semaine, dans Le Point, vous livrez plusieurs articles, dont l'un consacré justement à la réponse européenne suite au désengagement américain. Et d'abord, vous avez recueilli la réaction d'un commandant ukrainien après ce qui a constitué sur ce sujet un tournant, à savoir vendredi dernier la violente altercation à la Maison-Blanche entre Donald Trump, le président américain, et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Que vous a dit ce commandant ukrainien ?
Nicolas, un copain. Il n'a jamais eu des sentiments de grande amitié pour Zelensky, mais ce qu'il a vu ce soir-là, eh bien évidemment, l'a profondément choqué. Il a été sous le coup de la colère, comme de nombreux Ukrainiens, notamment sur le front, où les militaires n'entendent pas du tout que leur pays soit d'une part humilié comme ça, et pas non plus leur président, même s'ils n'ont pas voté pour lui. Là, sa réaction très forte, il parle comme les gens qui sont sur le front en ponctuant tout ce qu'il dit de nombreux jurons, bliette, bliette, et qui veut dire un peu merde comme ça. Et là, il était vraiment en colère. Il a dit mais moi, je lui aurais asséné un coup de poing directement. Maintenant, cette situation où les Ukrainiens font front commun dans l'adversité qu'ils connaissent, les États-Unis les lâchent, ça ne va pas forcément durer. On est dans une situation où tout est très très mouvant et beaucoup d'Ukrainiens auraient bien envie de voir advenir un cessez-le-feu. Et là, on a une Ukraine divisée entre ceux des villes et ceux du front, les plus motivés, qui aimeraient continuer la guerre parce qu'ils ont trop sacrifié déjà dans cette guerre. Oui. Ils ont notamment Mikola, qui a perdu sa famille, il les a plus vus, il avait des amours qui se sont dilués comme ça dans ces 3 ans de guerre, il les voit plus, il a perdu tous ses amis, c'est extrêmement triste. Et lui, il voudrait pas que tout ça ait été fait en vain. J'étais avec Daniil peu de temps qui est sous les ordres de Mikola et qui m'expliquait qu'il s'était déplacé de Hongrie au moment du déclenchement de la guerre. Il a perdu et il est venu avec ses 2 meilleurs amis et qui sont morts dans la guerre. Il n'a plus qu'un seul ami, Mikola.
Mais à quel point l'Ukraine est-elle capable aujourd'hui de poursuivre la guerre sans les États-Unis, avec uniquement les Européens et évidemment les forces ukrainiennes qui
C'est toute la question. Alors, l'aide américaine, même si elle est bien moindre que ce que prétend Donald Trump, on n'est pas du tout à 500 ou 300 milliards de dollars, mais plutôt à 114, et toute cette aide n'est pas militaire. Donc, pour ce qui est du volet militaire, ce serait 70 milliards de dollars. Il y a des choses qui sont remplaçables, mais pas tout. Notamment, 3 choses sont très, très difficiles à remplacer. Premièrement, les missiles Patriot. Il y a 3 batteries complètes de Patriot en Ukraine. Et ces 3 batteries comprennent plusieurs lanceurs, des missiles, des radars. Elles défendent les villes, notamment Kiev, Lviv, Dnipro. Ce sont ces batteries de Patriot qui assurent la meilleure protection, la seule protection possible contre les missiles balistiques. Sans ces missiles Patriot, les Kiev seraient en danger, et notamment les civils. C'est tout le problème. La deuxième chose, c'est l'intelligence. les Américains partagent avec, en temps réel, avec les forces ukrainiennes, leur connaissance du déplacement des troupes russes, et ce qui permet aux Ukrainiens de réagir, de cibler leurs attaques et de préparer leur défense. Ça, selon les dernières déclarations, ça va prendre fin ou ça a déjà pris fin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore des hommes de la CIA qui sont là et qui collaborent avec les forces ukrainiennes. Le troisième volet, c'est Starlink. Évidemment, sur le front, pour communiquer, pour orienter leurs drones, les Ukrainiens ont besoin de ce système de communication. Ils l'ont remplacé à Koursk parce qu'il ne fonctionnait pas à Koursk. Et, petit scoop, la brigade Khartia, qui est aux environs de Kharkiv, a elle aussi trouvé une solution de remplacement. Donc ça pourrait peut-être être remplacé. Mais ça prendra du temps. Les Ukrainiens doivent nécessairement gagner du temps pour assurer cette transition s'ils veulent continuer à se battre.
Et évidemment, le remplacement de Starlink, la question se pose, car le réseau satellitaire est détenu, on le rappelle, par Elon Musk, qui travaille aux côtés du président américain Donald Trump. Merci Boris Mabillard depuis Kramatorsk en Ukraine.
Merci à vous, bonsoir.
Bonsoir, et votre dossier à retrouver cette semaine dans Le Point et sur le site internet de l'hebdomadaire. Et direction à présent le Japon, qui observe avec inquiétude les manœuvres militaires chinoises, les provocations comme cela est considéré, puisque Pékin multiplie les exercices en mer de Chine orientale, ce qui fait monter les craintes quant à une invasion un jour de Taïwan. Crainte que l'on retrouve particulièrement à Okinawa, archipel qui est situé à l'extrême sud du Japon. Exemple à Yonaguni, qui n'est qu'à 110 km de Taipei. Reportage Bruno Duval.
À Yonaguni, tout est prêt pour si jamais Pékin attaquait Taïwan ou bouclait la mer de Chine orientale, empêchant toute navigation et donc le ravitaillement de l'île par voie maritime. Koji Sugama est en charge de l'élaboration des plans catastrophes.
Yonaguni compte 1648 habitants. Le jour venu, s'il survient, un pont aérien évacuera les personnes qui le souhaitent vers la grande île de Kyushu, qui est située au nord de l'archipel d'Okinawa. 11 vols se succéderont sans discontinuer du matin au soir. Les fonctionnaires municipaux seront les derniers à quitter Yonaguni. Notre objectif est de mener à bien l'évacuation de l'île en un jour, pas plus.
Les personnes qui ne souhaitent pas évacuer seront invitées à se regrouper dans les centres d'hébergement d'urgence où la population se réfugie en cas de catastrophe naturelle comme les séismes ou les tsunamis. Des stocks y ont été constitués, 3 litres d'eau par jour et par personne par exemple. Mais comme il ne s'agit pas d'abri antimissile, ces habitants n'y seront pas à 100% en sécurité. Le maire, Kenichi Itokazu, ne décolère pas.
Il n'y a pas un seul abri antimissile souterrain dans cette île, pas un seul. L'État m'en promet un, mais ça prendra des années. Pareil, ça fait des lustres qu'on réclame l'allongement de la piste de notre aéroport, où aujourd'hui seuls des petits bimoteurs peuvent atterrir. Cela va poser des problèmes si une guerre éclate et qu'il faut acheminer en urgence d'énormes renforts militaires ici. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans et demi, j'ai réalisé combien nous n'étions pas préparés à faire face à une crise majeure, car c'est l'évidence, notre gouvernement a beaucoup trop tardé à prendre conscience de la menace chinoise.
Plusieurs centaines de militaires sont stationnés à Yonaguni. À l'aide de puissants radars, ils surveillent en permanence les eaux territoriales et l'espace aérien. Il est aussi prévu d'y déployer des missiles sol-air de moyenne portée. Le Japon muscle son dispositif militaire à Okinawa et cela ne fait pas l'unanimité. En raison du poids terrible du passé, il y a 80 ans, la guerre tua un quart de la population civile de cet archipel. Cette retraitée qui milite bénévolement dans une association pacifiste est effarée.
Tirons les leçons de notre passé tragique et faisons en sorte qu'il ne se reproduise pas. Notre pays est régi par une constitution pacifiste. On commémorera bientôt la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus que jamais donc, le Japon doit s'interdire une nouvelle dérive belliqueuse.
Année après année, Tokyo accroît son budget de la défense. Il atteint désormais une 60 milliards d'euros, soit davantage que le montant des dépenses militaires de pays comme la France ou l'Allemagne. Bruno Duval, de retour de Yonaguni, RFI.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La session d'info se poursuit. Session soirée, évidemment, sur Radio France Internationale pendant encore 1h30. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir avec Arthur Ponchelet.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
Bruno Faure.
Entre la Chine et les États-Unis, la guerre commerciale est de nouveau déclarée. Donald Trump attaque à coups de taxes, Pékin riposte. Quels sont les enjeux économiques de cette montée des tensions pour les deux puissances et pour le reste du monde? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois. Yeah.
Excuse me, Mr. Officer. Roseau et Ghetto Boy. So no don't look like say we done the crazy. See all of my people, see all of my people. Say we do no evil, stay away from evil.
Yuka et Naza.
Baby, fais monter ton train, veux coûter mon cho-cho-cho.
RFI Musique.